Les informations avec vous, Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. Elle s'est éteinte paisiblement à New York la nuit dernière, entourée de sa famille et de ses amis. L'écrivaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature, avait 88 ans. Une grande partie de ce journal sera consacrée à cette grande dame, connue pour avoir donné une visibilité littéraire aux Afro-Américains. Nous irons à Washington avec Grégory Phillips, puis nous reviendrons sur son œuvre avec Ilan Malka. Au Brésil, en Amazonie, la déforestation a bondi de 67% depuis janvier dernier, conséquence de la politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Les détails de Sarah Colosimo dans un instant. En Turquie, le président perd les nerfs avec une milice kurde qui stationne à sa frontière nord-syrienne. Recep Tayyip Erdogan menace d'une opération militaire, menace qui rejaillit dans les relations avec Washington. Explication à suivre d'Dan Andlauer. La banque HSBC prête à tout pour éviter la justice et sauver son image. 300 millions d'euros offerts à l'État belge pour clore une enquête de blanchiment. Explication de Maxime Fayol dans un instant. Et puis en France, la CGT du site Ford de Blanquefort et son porte-voix Philippe Poutou ne désarment pas. Rassemblement cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Un jugement en appel est attendu pour contester la fermeture du site en juillet dernier. La vie est toujours plus grande que la vie, disait Toni Morrison sur France Culture en octobre 2010. L'écrivaine américaine, première femme noire, lauréate du prix Nobel de littérature, est morte hier soir à l'âge de 88 ans. Elle était hospitalisée à New York. Entrée en littérature à l'âge de 39 ans, elle publiera au total 11 romans. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
La nouvelle est confirmée par la famille et l'agent new-yorkais de Toni Morrison. C'est évidemment une très grande figure de la littérature américaine qui disparaît et qui, au fil de sa carrière, a reçu les prix les plus prestigieux. Le Nobel de littérature, évidemment, en 93, pour l'ensemble de son œuvre. Elle est la première femme noire afro-américaine à recevoir cette distinction. Et puis, quelques années plus tôt, en 88, le prix Pulitzer pour son roman Beloved, qui a été son premier grand succès en France. De Toni Morrison, on retiendra qu'elle a été une grande éditrice dans les années 70. Elle a notamment beaucoup fait pour les auteurs afro-américains, une formidable romancière qui, dans toute son œuvre, a travaillé sur l'identité des Noirs américains, une femme engagée aussi en politique auprès de Bill Clinton, puis de Barack Obama. L'ancien président avait remis à cette descendante d'esclaves en 2012 l'une des décorations les plus prestigieuses aux États-Unis, la médaille de la liberté.
Parmi les questions abordées dans l'œuvre de Toni Morrison, comment se remet-on d'avoir été une enfant noire dans un ghetto de l'Ohio, d'être une femme noire dans la société américaine, mais aussi comment survivre à ses traumatismes au regard de l'autre, des problématiques qu'elle avait abordées dans notre programme À Voix Nue, dont voici un extrait sur le thème de la honte. Attention, la traduction en français prend quelques secondes avant d'arriver.
Shame is knowledge. Shame is information. If you can feel the shame, then you can work through it. If you never feel it, never know it, you could never get rid of it. You could never learn from it.
La honte, c'est un savoir. La honte, c'est une information. Et si on peut éprouver la honte, alors on peut travailler sur ce sentiment. On peut élaborer. Alors que si on ne la ressent jamais, si on ne la reconnaît jamais, alors on ne peut jamais s'en débarrasser.
Court extrait d'À Voix Nue sur France Culture avec Toni Morrison, entretien réalisé par Clémence Boulouk. La série des 5 entretiens est à retrouver en intégralité dès maintenant sur notre site internet et rediffusion ce soir à 20h dans vos postes radio. Mais avant, Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Toni Morrison, on l'a compris, c'était une personnalité hors norme avec un sacré style littéraire.
Oui, dès son premier livre, L'œil le plus bleu, en 1970, Toni Morrison impose une écriture très forte et des thématiques puissante. L'ouvrage est situé dans les années 40. Il raconte l'histoire de Pecola, jeune afro-américaine terriblement mal dans sa peau, qui rêve de ressembler à Shirley Temple et d'avoir les yeux bleus. Sans aucun tabou, le livre aborde l'enfance, le racisme, mais aussi les violences conjugales, le viol. À 39 ans, Toni Morrison impose un style qu'elle va développer dans une œuvre indispensable. Style parfois proche du langage parlé, parfois proche de la poésie, qui n'hésite pas à bousculer la chronologie des événements, à faire intervenir plusieurs narrateurs différents dans le récit. Le lecteur est déstabilisé mais fasciné. Ce sont notamment 11 romans qui racontent l'histoire des Noirs américains depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. 11 romans qui flirtent parfois avec le fantastique. Dans Beloved, nous sommes au 19e siècle, en pleine Amérique ségrégationniste. Une mère reçoit la visite du fantôme de sa fille qu'elle a elle-même tuée quelques années auparavant pour la faire échapper à l'esclavage. Ces livres sont toujours très engagés, montrent systématiquement tous les ravages du racisme. Mais Toni Morrison fuit le manichéisme. Elle s'attache toujours à décrire la psychologie de tous ses personnages, quelle que soit leur moralité. Dans ses derniers livres, notamment Home et Délivrance, elle développe un style encore plus direct et concis. Cependant, elle pose toujours les mêmes questions qu'au début de son œuvre. Vous l'avez dit, Anne, comment trouver la résilience quand on a subi l'intolérance, l'injustice, le rejet? Comment quitter les douleurs de son enfance? Des ouvrages qui nous font passer de l'effroi aux larmes. Des livres comme seul Toni Morrison savait en écrire.
Merci Ilan Malka, lecteur de Toni Morrison. J'ajoute que les matins d'été de France Culture demain seront aussi consacrés à Toni Morrison. C'est un chiffre impressionnant qui dit beaucoup de la politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Au Brésil, la déforestation a bondi de 67% sur un an. Chiffre de l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil qui concerne les 7 premiers mois de l'année. Au cours du seul mois de juillet, c'est l'équivalent de la taille du Luxembourg qui a disparu au cœur de l'Amazonie. Le pouvoir n'entend pas, Sarah Colosino.
4700 km² de forêt en moins en 7 mois. Avec un rythme qui s'accélère, 34% de plus en mai, 90% en juin et 278% en juillet. Des chiffres que n'a pas apprécié le gouvernement de Jair Bolsonaro. Ce vendredi, Ricardo Galvão, le directeur de l'agence spatiale brésilienne, a été limogé et remplacé par un ancien militaire. La raison, le président le soupçonne d'exagérer les chiffres de la déforestation et d'être au service d'ONG environnementales. Depuis son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro ne cesse d'encourager l'exploitation de l'Amazonie. Baisse des amendes, assouplissement des réglementations environnementales, des promesses et un discours qui ont un impact direct sur la déforestation illégale. Interrogé par le quotidien O Globo sur ces chiffres, le ministère de l'Environnement n'a pas souhaité les commenter.
Correspondance à Rio de Sarah Colosino. Au lendemain de la grève générale à Hong Kong, Pékin a durci le ton ce matin envers les manifestants qui défient le régime communiste depuis 2 mois. « Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu », a menacé la porte-parole du bureau chinois des affaires hongkongaises. Cette menace sans précédent arrive quelques jours après la diffusion d'une vidéo de propagande de l'armée chinoise, Valérie Crova.
La patience de la Chine aurait-elle atteint ses limites? C'est en tout cas une sérieuse mise en garde adressée aux milliers de Hongkongais qui défilent contre le pouvoir chinois. Ne sous-estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central, a lancé ce matin le porte-parole du bureau chinois des affaires de Hong Kong. C'est la première fois que Pékin hausse le ton aussi fermement depuis le début de la contestation, provoquée par un projet de loi qui devait autoriser les extraditions de suspects vers la Chine. Sous la pression populaire, le projet a été suspendu. Mais les manifestations se poursuivent. Les contestataires réclament désormais le départ de la dirigeante de l'exécutif local, Carrie Lam, soutenue par Pékin. Le régime chinois s'est refusé jusqu'à présent à intervenir. Il s'est borné de rappeler qu'il disposait d'une garnison de plusieurs milliers d'hommes au cœur de Hong Kong qui pourrait intervenir à condition que les autorités hongkongaises en fassent la demande.
Précision signée Valérie Crova. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan n'attendra pas pour intervenir contre la milice kurde syrienne YPG dont des troupes stationnent à proximité de la frontière turque. Le sujet empoisonne les relations avec les États-Unis car ces forces kurdes sont soutenues par Washington dans le but de lutter contre le groupe État islamique. Recep Tayyip Erdogan annonce des opérations pour, je cite, « très bientôt, mais peut-il se le permettre ?» à Istanbul, les précisions d'Anne Handlauer.
À 2 reprises ces 3 derniers jours, alors qu'une délégation militaire américaine se trouve à Ankara, Recep Tayyip Erdogan a menacé d'attaquer sans attendre les principaux alliés de Washington sur le terrain syrien, les forces kurdes des YPG. Dans l'immédiat, il s'agit de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils cèdent aux demandes d'Ankara d'éloigner les combattants kurdes plus de 30 km au-delà de la frontière turque. Recep Tayyip Erdogan veut y envoyer son armée pour établir une zone dite de sécurité. Sur le plan intérieur, le président turc, toujours ébranlé par sa récente défaite aux municipales d'Istanbul, veut donner des gages au parti ultranationaliste sans lequel il perdrait sa majorité parlementaire. Une intervention militaire est perçue comme un bon moyen de préserver cette alliance, tout en mobilisant l'électorat. Reste que le pari est extrêmement risqué. Le président américain Donald Trump, qui fait tout pour empêcher son administration de sanctionner la Turquie pour son achat récent de missiles russes, avait promis au début de l'année de dévaster l'économie turque, déjà bien mal en point, si Ankara attaquait les forces kurdes de Syrie. Le coût économique pourrait être fatal, sans même parler des risques militaires et politiques d'une offensive de l'armée turque dans une zone où sont stationnés des militaires américains.
La correspondance à Istanbul d'Anne Andlauer. 2 milliards de dollars, c'est ce qu'aurait récolté la Corée du Nord grâce à de récentes cyberattaques dirigées vers des banques et des plateformes de crypto-monnaies. L'ONU a publié un rapport hier. Ces fonds permettraient à Pyongyang de financer ou d'améliorer ses programmes d'armement. Pour cette dictature communiste, c'est aussi devenu le seul moyen de contourner les sanctions unanimement imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2006. Louis Paligiano, vous avez parcouru le rapport de l'ONU.
Pyongyang a utilisé le cyberespace dans le but de lancer des attaques de plus en plus sophistiquées pour voler des fonds aux institutions financières et aux plateformes de crypto-monnaies, affirme une étude rédigée par un groupe d'experts et transmise au comité onusien chargé de l'application des sanctions contre le Nord. Au moins 35 cas signalés de cyberattaques nord-coréennes visant à récolter des devises dans quelques 17 pays font actuellement l'objet d'une enquête. D'après les experts, ces attaques à grande échelle contre les échanges de crypto-monnaies permettent à la Corée du Nord de générer des revenus plus difficiles à localiser et soumis à moins de surveillance et de réglementation gouvernementale par rapport au secteur bancaire traditionnel. Lors de leur rencontre surprise le 30 juin dernier, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un sont convenus de reprendre les pourparlers visant à dénucléariser Pyongyang, un dialogue rendu incertain alors que ce matin le Nord a tiré des missiles pour la quatrième fois en 12 jours.
Louis Paligiano depuis Séoul. La banque HSBC va payer une amende de près de 300 millions d'euros à la Belgique. C'est le parquet de Bruxelles qui l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit de clore une enquête pour fraude fiscale grave et blanchiment d'argent. Une filiale suisse d'HSBC était accusée d'avoir aidé des centaines de clients à tromper l'État belge selon l'enquête qui a été ouverte en 2014. La banque aurait ainsi encouragé l'ouverture de comptes offshore au Panama et dans les îles Vierges et donc a favorisé la fraude fiscale. Bonsoir Maxime Fayol.
Bonsoir.
Par cette transaction avec la Belgique, HSBC évite donc une condamnation en justice et sauve aussi son image.
Et c'est l'objectif principal de la banque, car une condamnation serait désastreuse tant dans l'opinion publique que sur les marchés. Mais c'est aussi une bonne opération financière pour HSBC, explique Dominique Plion, spécialiste du secteur bancaire.
Cette somme de 300 millions d'euros, elle est très inférieure au montant des recettes perdues par les pouvoirs publics, par les trésors publics des pays concernés, très inférieure aux gains réalisés par ces banques dans leurs opérations de blanchiment, de fraude et d'évasion fiscale.
Le préjudice pourrait en effet se chiffrer en milliards de dollars. Alors si HSBC indemnise l'État belge, va-t-elle pour autant changer ses pratiques? Ce n'est pas certain pour Dominique Plion.
Elles font une analyse avantage-coût. On paye une amende, mais comme ce coût d'amende est très inférieur au gain qu'ils avons réalisé, ça peut les inciter à l'avenir à recommencer. Et c'est là que je serais très critique à l'égard des autorités publiques, c'est-à-dire de considérer que une amende, c'est pour solde de tout compte. En réalité, je pense que donc l'amende est une sanction insuffisante pour empêcher une récidive de la part des banques.
HSBC qui a aussi utilisé cette amende pour restructurer son groupe. La banque a annoncé hier la suppression de 4000 emplois et le limogeage de son patron John Flint après moins de 2 ans à ce poste.
Maxime Fayol, merci. En Gironde, les salariés de Ford au combat jusqu'au bout. Ils étaient une trentaine rassemblés devant la cour d'appel de Bordeaux cet après-midi. Même si la production a définitivement cessé fin juillet et que les premières lettres de licenciement sont tombées, une audience en appel est organisée. Les salariés espèrent que la justice va reconnaître l'absence de raisons économiques à la fermeture de leur usine à Blanquefort. Début juillet, en première instance, le tribunal de grande instance de Bordeaux s'était déclaré incompétent pour trancher la question. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de lassitude, mais Philippe Poutou, responsable CGT à Blanquefort, rejette l'idée d'une bataille perdue d'avance.
C'est pas un baroud d'honneur. On a un espoir de gagner, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Ford n'a aucune raison économique pour fermer cette usine-là. S'il n'y a pas de raison économique, il ne peut pas y avoir de licenciement économique. Donc, le licenciement, il est illégal. Et nous, on essaie de faire marquer ça, de faire prendre position de la justice de ce côté-là pour empêcher la fermeture et montrer qu'il est possible aujourd'hui de s'opposer à des fermetures et à des licenciements. Alors, on y croit. Peut-être qu'on a tort d'y croire. On verra bien. Et après, il y a toujours la cassation, mais c'est toujours plus compliqué. Voilà. Nous, tout simplement, il faut obtenir un jugement favorable de la cour d'appel. Il faut absolument que ce soit décidé avant le 1er octobre, puisque c'est le jour où on reçoit nos lettres de licenciement. Donc il faut que ce soit décidé avant, de manière à empêcher les licenciements. Il faut les déclarer illégaux avant qu'ils n'aient lieu, puisqu'après, finalement, ça ne sera qu'une histoire d'argent. Et nous, on veut surtout sauver les emplois, sauver une usine.
Des propos recueillis par Marie Rouarche. La météo, 20 départements du centre-est et de l'est de la France sont désormais en vigilance orange pour des risques d'orages violents. Demain, le temps restera pluvieux sur la majeure partie du pays, sauf sur la façade ouest, au sud-est et en Corse. Les températures, elles iront de 18 à 30 degrés du nord au sud dans la matinée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, journal dont la principale information, c'est donc la mort de Toni Morrison à 88 ans. Hommage à l'instant de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui la qualifie de trésor national.